Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous basket du mercredi à minuit que vous retrouvez en version longue, en podcast sur rmc.fr avec toujours la Big Team, Big Fred Veil, salut
bonjour,
Fred.
Bonjour.
Alex, Bigger Staff.
Hello Pierrot.
Et bon Stephen Brun, il n'y a rien qui marche.
Salut mon petit Pierrot.
Ça va Stephen?
Ça va en forme.
Et Stephen, depuis que Dallas a remporté le premier match face aux Clippers, il a une banane incroyable.
Eh oui.
Ça va aller au bout, non?
Oh, là, tu t'enflammes un petit peu.
Non, si ça gagne un deuxième match, déjà, ça sera bien.
Ah, carrément. Ouais. Ça peut faire 4-1, cette histoire.
Maybe.
On va peut-être parler de cette série. En tout cas, c'est un spécial play-off avec quand même un focus sur deux équipes qui sont attendues au tournant, les Nets. Brooklyn est-il favori dans ses playoffs, dans ses finales NBA 2021? Et puis quand même, à tout seigneur, tout honneur, il faudra parler bien sûr des Lakers. Les Lakers champions en titre qui ont vécu une saison très compliquée, mais qui vont peut-être se retrouver au complet au meilleur moment. Alors les Lakers peuvent-ils conserver leur titre? J'espère que vous êtes inspirés, messieurs, pour parler playoffs, parce que dans le débat historique, vous allez nous donner votre moment préféré des playoffs. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein.
Il y en a.
Il y en a un paquet, mon grand.
Et on se souvient même pas de tous, en fin de compte. C'est comme on regarde ça la nuit à moitié décalqué. Ben parfois, il y a des trucs qui n'impriment pas. Comme ça, une première impression, ton premier souvenir de playoff, c'est quoi, Fred? Ton plus ancien souvenir de playoff, disons.
Mais c'est celui dont je vais parler, donc je vais pas
te
lancer.
Ah, c'est celui dont tu vas parler, très bien. Oh, tu gardes ça pour plus tard. C'est parti, vous êtes prêts? Il y aura évidemment un quiz spécial playoff. Là, attention, parce que je vais vous faire appel à votre culture des playoffs NBA. Hein. Là, c'est pas des citations.
Culture,
c'est pas
culture générale. Culture basketballistique.
Basketballistique, c'est un très joli mot. Allez, Basket Time, c'est parti. Tous les mercredis à minuit en version longue, en podcast spécial. Playoff, on démarre par les Nets.
Irving for three. Can't answer. Long rebound out to Griffin. To Durant. On the pull-up. He is a mid-range assassin. Irving. Oh, Kyrie Irving drills it. Little shake and bake. Gets inside, Fournier nearly took it away, out to Harden, Harris back to Harden, drives, kicks it out, Green, corner three, the tip is good, Irving comes flying in and tips it. Harden, step back three, that's good. Wow.
We all would agree the Nets are the favorite to win the championship.
Je note quand même qu'il y a un très gros effort sur la bande son depuis quelques semaines.
Hein. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que notre producteur Arthur Robert, j'ai l'impression qu'il est devenu DJ. C'est DJ Robert.
Il s'est mis au hip-hop à 30 ans et c'est parti. Ouais. Attention, c'est solide. Non, bravo, on peut le féliciter quand même. Parce que passer du hip-hop sur RMC en 2021, c'était pas gagné d'avant.
Et en plus, il met des sons de notre génération.
Exactement.
Mais pas des trucs de son âge.
Qu'il écoute en soirée.
Ça vaut mieux, non? Ça vaut mieux. On préfère M.O.P. à Weshden. Mais Weshden, on n'est même pas dans le game.
PNL,
ouais, t'as raison.
Ouais, Jules.
Non, on peut pas prendre ce nom en ma présence. Alors, messieurs, on va parler des Nets. Les Nets qui ont fait quand même une saison réussie en saison régulière, puisqu'ils terminent deuxième alors qu'ils n'ont jamais joué avec leur trio magique. Et puis là, les playoffs, bah, pour l'instant, tout va bien, hein, puisque les Nets ont remporté ce premier match face à Boston. Qu'est-ce qu'on en dit de ce premier match d'ailleurs?
Qu'il a démarré à la mi-temps pour Brooklyn, que tu avais l'impression, en les voyant jouer, qu'ils étaient tellement sûrs de leur force qu'au moment où ils se sont dit « bon allez, on y va », ils se sont mis à jouer. Là où j'étais agréablement surpris par Brooklyn, c'est que défensivement, ils avaient tendance à prendre beaucoup de points dans la saison régulière, et là, ils en concèdent que 93. Alors, on peut expliquer aussi parce que Boston a perdu Jalen Brown et qu'ils n'ont plus la même force offensive, mais c'est quand même à souligner pour Brooklyn. Et ce qui est effrayant, c'est que tu as l'impression qu'ils sont encore en rodage, en fait.
Mais complètement, ils sont encore en rodage. C'est la neuvième fois uniquement qu'ils étaient alignés tous les trois. Enfin, les trois forces de frappe. Donc, et forcément, ils sont en rodage. Ouais.
Et ça peut être inquiétant pour les autres équipes. Maintenant, Brooklyn contre Boston, normalement, c'est les affaires courantes. Hein. C'est pas très intéressant pour eux, j'ai envie
mais
de
si,
te dire.
Mais si, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est intéressant, au contraire, parce qu'en face, il y a une équipe qui défend plutôt correctement, normalement. Ça va leur permettre de travailler un petit peu, comme on vient de le dire. Ça fait que neuf fois qu'ils ont été alignés tous ensemble. Donc, ça peut leur permettre de rentrer dans le bain et de se mettre en confiance pour les matchs.
Bon.
C'est pas très bon. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est pas très intéressant. On sait qu'ils vont passer, ça c'est
ça
évident.
Ça va pas les pousser dans leur retranchement, tu vois ce que je veux dire.
Je suis d'accord, mais ils ont besoin de vécu collectif quand même.
Ils ont besoin de vécu collectif.
Et donc je me dis que les matchs qui vont s'enchaîner, bah justement, c'est plutôt bénéfique pour eux, pour leur collectif, pour continuer à progresser et à trouver des automatismes.
Boston sans Jaylen Brown, ça vaut pas grand chose.
Bon, même avec Jaylen, c'est plus le même Boston. Déjà la saison régulière, c'est chaud. Non, mais c'est
comment on explique cette descente aux enfers de Boston?
Ouais, les blessures, peut-être on arrive à une fin de cycle d'idées pour Brad Stevens, qui était considéré comme l'un des meilleurs coachs de la NBA ces dernières saisons. Peut-être qu'il a besoin de se renouveler lui-même aussi. Il y a eu beaucoup de transferts aussi quand même dernièrement. C'est une équipe qui a bougé. Hein.
Ouais, Danny Ainge qui a pas été, qui est censé être très bon, qui a pas été, je pense, bien aspiré sur les derniers transferts. Et puis je trouve que Brad Stevens, comme l'a dit Alex. C'est devenu un tendant, ça serait fort, parce qu'avant c'était un vrai coach, il mettait des choses en place, et j'ai l'impression que l'émergence individuelle et le fait que Jason Tatum ou Jaylen Brown soient tellement forts individuellement qu'il a arrêté de coacher, de mettre des choses en place collectivement, et qu'il laisse faire un petit peu des Tatum sur beaucoup d'isolation et de Jaylen Brown, et c'est ce que je regrette.
C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est en gros il vaut mieux qu'il parte de là, ou en tous les cas qu'il change un peu l'effectif pour pouvoir redonner sa chance à son coaching, c'est ça?
Bah déjà le jour où ils auront un big man, peut-être que ça ira mieux en fait, tout simplement.
Alors si on revient au net, bon, il y a donc ce premier match, et si je vous écoute, cette série sera pas très significative. Pour autant, est-ce qu'ils vous ont déjà impressionné?
Moi, ils m'ont impressionné sur le troisième carton. Ils mettent le trio magique, mais 28 des 31 points de son équipe. Alors là, c'est très impressionnant parce que le ballon circule bien, encore une fois, il se trouve bien malgré le peu d'automatisme. Et ils sont capables, encore une fois, d'accélérer, de passer à sixième quand les autres sont à l'arrêt. Et quelle force de frappe incroyable. C'est-à-dire que quand tu te concentres sur un ou deux joueurs, mais il y a le troisième qui va te sortir un truc incroyable. Moi, je suis impressionné. Offensivement, c'est très impressionnant. Et comme le disait Stephen, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, ils défendent aussi.
Alors, ils défendent. Ils font que 18 passes. Mais pourquoi ils font que 18 passes? Bah, parce que quand les mecs n'ont pas besoin de faire des passes pour mettre des paniers, ils sont tellement forts individuellement. Le petit bémol, c'est qu'on s'aperçoit que face à Boston, ça passe. C'est qu'ils jouent très small ball. C'est que Blake Griffin joue pivot. C'est que Jeff Green joue pivot. Le Claxton, le grand, il joue que 11 minutes. Dédé Jordan n'est pas rentré une seule seconde.
Et c'était court, les rotations, là.
C'était très court, les rotations. Et ça peut être. Parce que si tu me demandes quelle équipe peut inquiéter Brooklyn à l'Est, ça peut être une équipe avec des big men. Et ça peut être les Sixers.
Ça peut être les Sixers.
Avec Jojo et Dwight.
Alors, c'est clairement qui a arrêté Jojo. Qui peut arrêter Jojo dans cette équipe?
Pas grand monde, j'ai envie de dire.
Dédé, comme tu disais, on n'a même pas compté sur lui sur le match. C'est compliqué.
Vous, Fred et Alex, c'est pareil, vous voyez les Sixers capables de stopper les Nets?
Je dirais pas qu'ils m'ont bluffé ou impressionné pour l'instant. Je pense qu'ils confirment le statut qu'on attendait d'eux. Maintenant, je suis vraiment de l'avis de Stephen, c'est que Philly... L'avantage de Philadelphie, en plus, c'est que c'est quasiment le même groupe depuis plusieurs saisons aussi. C'est un groupe qui a pris des claques déjà, qui sait ce que c'est d'arriver dans ces playoffs.
Avec un coach qui a pris une claque l'année dernière, donc il est revanchard aussi.
Et qui a un petit peu moins de pression que les années précédentes, puisque tous les regards sont focalisés sur Brooklyn. Donc je pense que...
Et ils ont un bon tableau aussi, si on compare quand même la densité de ces playoffs NBA, c'est peut-être là que c'est le plus abordable.
C'est là où on verra comment étayer Brooklyn surtout. C'est vraiment à partir de là.
Avec Washington au premier tour et ensuite le vainqueur de New York à
C'est
correct, dire, hein.
C'est highway to
the. C'est faisable, hein.
C'est-à-dire, si tu demandes un tableau, tu veux celui-là, quoi, dans le tour.
À choisir, c'est le meilleur.
Mais pour ça, fallait être premier de la conf, mon grand.
Exactement.
Fallait s'intéresser à la saison régulière.
Alors, après, il y a quand même une confrontation qui va être intéressante, en tout cas, sur le papier, c'est Milwaukee-Brooklyn, si ça va là, bien sûr, parce que pour l'instant, bon, Milwaukee mène 2-0 contre Miami. Si ça va en demi-finale de conf, et tu vois pas Milwaukee capable d'embêter Brooklyn?
Je sais pas.
Moi, ils m'ont impressionné. Milwaukee, ils m'ont impressionné. Hein, parce qu'ils ont quand même concassé.
Ça blague pas, là, Milwaukee.
Le 8, c'est pas le 8 de l'année dernière, évidemment. Mais ils ont quand même concassé une grosse défense. Très facilement. On a l'impression qu'ils ont progressé, qu'ils ont gravi un échelon et franchement ils ont été impressionnants sur le match.
Mais spontanément vous m'avez quand même parlé de Philadelphie hein, pour battre Brooklyn. Oui, mais pas parlé de Milwaukee.
Pas parce qu'ils ont un big man dominant, ils en ont même deux, parce que quand t'as en rotation Joel Embiid, Dwight Howard, qui quoi qu'on en dise est quand même un joueur très solide, qui accepte son rôle d'être le backup de Joel Embiid et qui est très bon sur le peu de minutes qu'il a, c'est le point faible de Brooklyn en fait, ce poste 5. Donc c'est pour ça que je vois Joel Embiid. D'ailleurs les Sixers sont tapés deux fois Brooklyn cette saison, même si l'effectif des Nets a toujours été différent, mais les Bucks sont tapés deux fois les Nets aussi cette saison. Donc
globalement qui est votre favori, si on prend pas que l'Est hein, si on prend le début de ces playoffs, qui est votre favori?
Bah les Mavs.
Pourquoi pas après tout hein.
Non
mais à l'Ouest, à l'Ouest va y avoir de la casse hein, va y avoir des surprises à l'Ouest.
À l'Ouest il va y avoir de la casse hein.
Donc, moi je resterai sur les Nets.
Toi tu restes sur les Nets.
Sur le papier les Nets forcément, mais
moi je reste sur les Sixers.
Ah, les Sixers.
Ouais. Ça fait 4 ans que je joue les Sixers, donc à un moment donné, ça va tomber.
À un moment, ça va tomber.
Comment ça va se passer concrètement le premier moment où les Nets vont connaître une vraie difficulté cette saison?
C'est ça que
comment ça va se passer avec les trois à ce moment-là?
Tu n'en as aucune idée.
C'est pour ça que c'est pas aussi certain.
Ah non, mais c'est pas, j'ai jamais dit que c'était certain, mais si je devais miser sur quelqu'un à l'instant T, et je suis pas le seul, apparemment les bookmakers sont de mon avis.
Kevin Durant va prendre le ballon et va marquer. Ouais, c'est un peu plus certain.
Là, on s'aperçoit que la saison régulière, elle a plus vraiment de valeur aux yeux des bookmakers. C'est que tu t'aperçois que Utah, Phoenix et Philly, qui sont les trois meilleures équipes NBA en saison régulière, ne font pas partie des favoris. Il y a encore les Lakers devant.
Il y a encore les Lakers, ça c'est pas surprenant.
C'est une saison un peu particulière et surtout, c'est une saison très indécise. C'est assez rare finalement qu'au premier tour de playoff, il n'y ait pas plus d'écart entre les prétendants. Souvent, la hiérarchie est beaucoup plus claire que cette année. Moi, je l'explique juste comme ça. Hein.
En tout cas, tu la retrouves dans les tours suivants derrière.
Aujourd'hui, tu sais pas qui est meilleur, quelle franchise est meilleure entre les Lakers au complet et les Nets au complet. C'est impossible de savoir.
Ouais, mais Stéphane le disait tout à l'heure aussi. On mise de moins en moins sur la saison régulière. On a l'impression que sur les premiers matchs de playoff, on est encore en rodage. En fait,
t'as quasiment rien vu de ces équipes-là. Mis à part Phoenix et Utah où t'as tout vu, toutes les autres équipes.
Et en plus, une saison plus raccourcie, en plus.
T'as rien vu.
Basket Time, c'est votre rendez-vous basket du mercredi soir sur RMC, que vous retrouvez en version longue en podcast sur rmc.fr. Les Lakers, justement, c'est maintenant. Booker. Hit the man at the free throw line. Crowder! You hold a team like Phoenix to 99 points. The defense was impeccable, but offensively, it's just not good enough. Devin Booker was able to lift up his veteran mentor and teammate. And the Lakers take the loss in game one. The Los Angeles Lakers are not going to the finals. Whatever happens this series, they're not going to win three series in a row on the road. I just don't think that's going to happen. That's just my personal opinion. Alors, les Lakers peuvent-ils conserver leur titre? Jamais une équipe aussi mal classée en saison régulière n'a été championne NBA puisqu'ils ont terminé 7e à l'Ouest. Il y a les Houston Rockets qui ont été champions 6e en 95. Et à part ça, il faut...
Il y a les Knicks qui sont allés en finale en 8e en 99.
Et
ils sont allés en finale, ils n'ont pas gagné.
Et pour gagner, sinon il y a les Boston Celtics en 69, 5e.
Bien sûr.
Belle année 69. Disait Gainsbourg. 69,
très bien.
Érotique.
Chercher autre chose, mais c'est pas grave, pourquoi pas.
T'as pas de culture musicale, Pion.
Si, mais je m'attendais pas à ça, là.
Arthur Robert, il n'y a pas mis celle-là.
Tu l'as pas mis celle-là, Arthur Robert. C'est plus Mopi et Eminem.
On peut tenter, hein. On peut tenter de faire un basket thème avec du Gainsbourg, hein. Ça peut passer, après tout, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Lakers peuvent conserver leur titre?
Écoute, moi, je les vois mal barrés. Je vais pas te dire que je suis inquiet parce qu'ils ont l'habitude et LeBron James a l'habitude de perdre ce match 1, mais j'ai vu des choses inquiétantes.
Du match perdu contre Phoenix.
Ouais, on en parlera. Anthony Davis.
Where is Anthony Davis?
Anthony Davis est passé à travers, mais en général, quand il passe à travers, le match d'après, ça fait du grabuge. Mais le problème, c'est que autour de LeBron et Anthony Davis qui m'inquiète. Le supporting cast des Lakers est faible. KCP est pas bon. Kai Kuzma, il ferait mieux de faire une télé-réalité avec les Kardashians, ça lui irait mieux. Il se passe pas grand chose dans cet effectif. Et si LeBron et Anthony Davis ne jouent pas au max du max, je pense que LeBron n'est pas à 100% de ses capacités physiques, ça passe pas. Et la logique est respectée. On rappelle que Phoenix est deuxième quand même. On a l'impression qu'on parle des Lakers comme si c'était le favori de la série. Mais Phoenix est deuxième de la conférence Ouest à l'avantage du terrain. Et Phoenix a eu une semaine pour préparer cette rencontre puisque les Lakers ont joué un play-in. Ils sont arrivés avec un plan bien établi et ils ont cassé la bouche aux Lakers.
Il n'y a pas un joueur des Lakers à plus de 20 points sur ce premier match. Non. Ça, c'est curieux, non?
C'est curieux, mais en même temps, ils mettent que 90 points. Hein. Ça paraît pas illogique, finalement, par rapport au résultat. Mais on a des joueurs comme Drummond qui, on se pose des questions quand même sur Drummond. Hein. quand on le voit jouer, quand on voit ce qu'il faisait, qu'il était capable de faire des 20-20. Et là, on se retrouve avec un joueur qui semble avoir un QI basket négatif.
Je crois qu'il a carotté tout le monde avec ses 20-20 à Détroit et à Cleveland. Je pense qu'il a carotté tout le monde.
Non, mais c'est là qu'on se rend compte que tu peux être très très bon dans une petite équipe, mais dès que tu arrives chez un contender, eh ben, c'est pas pareil.
Parce
on te demande beaucoup plus, quoi.
C'est mauvais. T'as l'impression qu'il a les mains pleines de pouces, qu'il met pas un panier près du cercle. Et surtout, il bouchonne la raquette. Pourquoi Anthony Davis c'est pas bon? Parce qu'avec Drummond qui passe son temps dans la raquette, Anthony Davis ne peut pas mettre un pied dans la raquette parce que Drummond est en permanence sous le cercle. Donc je pense que la solution, si ça se passe mal sur le match 2, Vogel il va dire à Dédé, écoute grand, t'es bien meilleur pour donner les bouteilles de cristalline, et il va jouer avec Anthony Davis au poste 5 parce que là ça bouchonne trop.
Allez s'asseoir sur le banc 5 minutes avec toi.
Bravo.
Tu l'avais celle-là.
Oui.
Bon, c'est étonnant quand même. Vous êtes en train de m'annoncer qu'André Drummond est une énorme carotte.
Bah non, il n'y a rien d'étonnant. Déjà deux choses. La première, on sait tous que Anthony Davis est meilleur quand il est près du cercle. Donc logiquement, quand t'as un autre mec qui est que près du cercle, ça va forcément lui poser des problèmes. Et ensuite, Drummond, franchement, en termes de QI basket, et on l'a dit, on l'a répété.
Dans n'importe quelle dimension NBA, tu prends toujours Davis sur Drummond, hein, quoi qu'il arrive.
Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu peux avoir les deux et que Anthony Davis était plus fort, un peu plus loin du cercle, s'il pouvait apporter un peu plus différemment, bah, tu pourrais jouer avec Drummond. Mais concrètement, il y en a un qui comprend rien au basket et l'autre qui est bien meilleur quand il est près du cercle. Donc, forcément, ça peut pas
Après, il y a un autre truc qui change aussi, c'est pas par rapport aux Lakers, c'est par rapport aux adversaires. Je pense qu'on les craint beaucoup moins et je crois que c'est Charles Barkley le disait à juste titre. Ils font peur à personne en fait cette saison et je pense que ça motive encore plus les équipes adverses et d'où des playoffs à l'Ouest vraiment très ouverts, c'est que je pense que les Lakers ne font vraiment plus peur.
Et alors il y a quand même une autre donnée à prendre en compte, c'est est-ce que Phoenix va pouvoir jouer avec un Chris Paul à 100% de ses moyens?
Mais écoute, mais ce qui est inquiétant, c'est que les Lakers se font casser la bouche avec Chris Paul qui peut pas shooter de toute la deuxième mi-temps parce qu'il a l'épaule ou les cervicales en vrac.
Enfin, il met un énorme shoot à moment quand même.
Oui,
malgré ça,
tu sens quand il dribble, il a mal, mais défensivement, ils ont été quatre. Devin Booker, c'est son premier match de playoff à Devin Booker en carrière.
34 points.
Et ben franchement, j'ai vu un mec serein, pas inquiet par la défense des Clippers. Que ça soit KCP ou Caruso, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils sont plus petits que Devin Booker. Et Devin Booker a tendance à les agresser, à faire des pull-ups à 4-5 mètres.
Tu veux dire qu'ils sont too fucking small?
Ils sont too fucking small. Caruso
c'est ce qu'on a dit dernièrement sur le podcast sur Phoenix. Hein. On avait dit, attention, cette équipe défend très très bien. On les voit direct. Hein. Premier match.
Et DeAndre Ayton, qui s'était fait casser la bouche en championnat par Anthony Davis quand il avait mis 42 il y a 15 jours. Et DeAndre Ayton a été le meilleur big man hier de la rencontre. Avant-hier, 10 sur 11.
Qu'est-ce qui peut éventuellement changer pour que les Lakers aient conservé leur titre?
Que les Browns redeviennent les Browns.
Que LeBron redevienne LeBron et qui est quand même enfin
un peu épaulé et qui est un mec Kuzma qui met 0 points.
Qui est un mec intermédiaire qui soulève un peu la tête.
Et Schröder, je suis désolé, mais en tant que meneur titulaire d'une équipe qui prétend à être championne,
il a pas été si cata que ça.
Mais ça me paraît un peu juste quand même. Comme meneur titulaire.
T'as un vrai problème, c'est qu'il est allemand. Et t'as un vrai problème avec.
Je m'appelle Weiss.
Un vrai problème avec les Allemands.
Je m'appelle Weiss, moi.
Toi, tu n'aimes pas Dennis Schröder.
Non, j'aime pas Dennis Schröder. Je trouve qu'il est très bon dans une petite équipe. Encore une fois, en sortie de banc, il a été meilleur sixième homme et c'était largement mérité. Mais là, il devient meneur titulaire d'une équipe qui veut être champion de NBA. Bah, je trouve qu'il y a un gap quand même. Voilà, tout simplement.
Tout simplement. C'est qu'une question de niveau. C'est pas son style de jeu. C'est pas la façon.
Moi, j'ai rien contre lui, mais encore une fois, en termes de QI basket,
l'année dernière, ils sont champions avec Rajon Rondo, qui est quand même Rajon Rondo.
Mais je suis d'accord. Mais mode playoff aussi. Mode playoff qui maîtrise le ballon, qui amène le ballon où il faut, et qui est un relais, finalement, LeBron James, qui joue quasiment plus meneur.
C'est vrai.
Et donc, très peu d'espoir si je vous écoute pour les Lakers, donc.
Sauf si LeBron.
Anthony Davis.
Je voulais me dire que LeBron, il a juste eu le shoot qu'il fait pour éliminer Golden State et Steph Curry, que maintenant c'est terminé. C'est quand même dommage.
Bah, ils mettent pas un tir, les Lakers. Hein. Ils mettent pas un tir longue distance.
Sauf LeBron, justement. Je crois que c'est le seul à avoir marqué les shoots à 3 points.
Non, mais. Je sais pas. Anthony Davis derrière, mais il y a LeBron.
Je sens pas LeBron au top, en fait. Je sens pas LeBron James comme il était au début de saison.
Il est pas à 100%.
Non, je pense qu'il est pas.
Non, mais physiquement, mais même, j'ai l'impression que dans le body language, moi, je l'ai pas vu au top. On n'aurait pas dit qu'il avait une motivation qu'il a pu avoir sur les playoffs de l'année dernière. Il est, je sais pas, moins dur que ce qu'on a vu.
Basket Time tous les mercredis à minuit en version longue en podcast sur rmc.fr. On va faire un peu d'histoire tout de suite. McAdoo coming off the screen. Mikhail finds it into Kareem. Good position. Basket counts and a foul. When Kareem gets it that low, see you later. Excellent pass by Bob McAdoo. The play broke down for him, but he sure spotted Kareem rolling across the lane. Alors, votre moment préféré de l'histoire des playoffs NBA. L'histoire, hein, c'est très vaste. Hein. Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, mais un truc qui vous a touché parce que vous allez raconter avec votre cœur. Oui. C'est Fred qui va démarrer. Ben, Fred Weiss.
Ouvre ton cœur, Fred.
J'ouvre mon cœur. Et justement, on parlait des Lakers. Et ben, j'ai envie de continuer avec les Lakers. Justement, on est en 1980, finale NBA, Game 6. On a les Lakers qui mènent 3-2 contre les Sixers de Julius Erving, par exemple. Ils sont guidés par Paul Westhead. Et comme je le disais, ils mènent 3-2. Westhead, ça m'a fait rire parce qu'ils étaient en tête à l'ouest. Bon, peu importe.
C'est drôle, Fred. C'est drôle.
Merci. Donc, le go-to guy des Lakers, c'est, ce n'est pas Magic Johnson. C'est bien évidemment qui?
Kareem Abdul-Jabbar.
Mais lui, manque de peau, il s'est blessé au Game 5. Et qu'est-ce qui va se passer?
Are you going to play center on offense in this game?
Yeah, I will be changing from center to forward on certain plays, depending on what play we call. I will be playing from center and forward.
Demande à Magic Johnson, qui est le meneur de cette équipe, de jouer pivot. Résultat des courses, il va être partout. Il a 42 points, 15 rebonds, 7 passes. Il va permettre à son équipe de gagner ce match, de gagner ce championnat. Il va être MVP des finales, le plus jeune MVP de l'histoire des finales NBA. Il va être, c'est un rookie, hein, comme on l'a dit. Il n'a pas été élu rookie de l'année cette année-là. C'est qui?
L'année 80?
80, Larry Bird qui a été élu. Et lui, bah, il se contentera, entre guillemets, d'être MVP des finales. Encore une fois, le plus jeune de l'histoire. Et juste pour la petite anecdote, c'est la première année où on a mis la ligne à 3 points. Avant 80, il n'y avait pas de ligne à 3 points. C'était la première année où on a mis la ligne à 3 points. Donc voilà, MVP des finales à 20 ans, rookie. Il a joué tous les postes et une victoire incroyable. Alors, ce qui a lancé les Lakers.
Une petite ligne de stats sympathique. Même aujourd'hui, il ferait blanchir toutes les mégastars de la NBA. Puisqu'il ce match 6, il est à 42 points, 15 rebonds et 7 passes.
Et Magic est le meilleur meneur de l'histoire, all time. Il le sera toujours, Pierrot. Donc il y a un paquet de joueurs qui regardent Magic d'en bas.
Il a donné à Fred l'envie d'être pivot quand même.
Et pourquoi ce moment-là, Fred? Parce que c'est un souvenir de jeunesse.
Parce que Magic, c'est mon joueur préféré. Alors de jeunesse, non, j'avais que 3 ans. Mais j'ai vu ces images des dizaines et dizaines de fois. Et se rend compte qu'un joueur comme Magic, qui était meneur, était capable de jouer à tous les postes pour aider son équipe. Un joueur incroyable dans l'histoire, dans la légende. Et encore une fois, je me répète, hein, le plus jeune MVP des finales de l'histoire.
Ok, à toi.
Ça, c'est un truc qui est possible. Meneur, quand t'es assez grand, de jouer pivot, tu peux tricher. Par contre, un pivot qui joue meneur, c'est
compliqué. Mais maintenant, ces pivots très habiles, ils jouent parfois un peu
meneur.
Oui,
mais je suis pas sûr que Joel Embiid, il annonce un système corn et qu'il joue un pick and roll.
Allez, à toi, Alex, ton moment préféré d'histoire des playoffs NBA.
Très bien, Arthur Robert, fais-moi rêver.
Chicago, 17 seconds. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan, open. Chicago with the lead. That may have been, who knows what will unfold in the next several months, but that may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA. If that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it?
14 juin 1998, quelques semaines avant que Zizou et Manu Petit me fassent véritablement chialer. Et oui, Michael Jordan met 45 points sur un match 6 des finales NBA face au Utah Jazz. Les Bulls sont en grand danger. Scottie Pippen se reblesse en début de match. On se dit, mais qu'est-ce que ça va être cette pagaille? Et moi, je regarde ce match avec mes yeux d'enfant. J'essaye de jouer sur mon petit panier accroché dans ma chambre. Vous savez, celui qui tombe toujours au bout de 3 fois quand tu tentes un tir. Voilà. Mais ça, vraiment, par contre, ça me touche au cœur. C'est de voir Michael Jordan, peut-être sur son dernier match, parce qu'à l'époque, on se dit, c'est son dernier match.
On pense foot à Washington, merde. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Washington?
Ouais, il aurait dû partir sur son dernier shoot avec les Bulls. Mais je pense que c'est vraiment, au-delà du basket même, c'est la plus belle émotion que tu peux voir dans le sport, tout simplement. C'est de voir le plus grand joueur de son propre sport prendre le plus grand shoot de tous les temps et donner le titre en plus à son équipe à 5 secondes et 2 dixièmes de la fin. Mais la petite histoire derrière
pourquoi
tout ça...
Pourquoi tu dis le plus grand shoot de tous les temps?
Parce que c'est The Shot. C'est The Last Shot. T'as regardé The Last Dance l'été
bien
dernier.
Bien sûr, mais non, parce que c'est pas le plus difficile, pas le plus spectaculaire.
Ah non, c'est le plus iconique.
Au niveau moment historique.
Plus iconique, ouais. Ok. Ouais. D'accord.
C'est le plus iconique. La photo est tirée de ce shoot est incroyable aussi. Ouais.
C'est le plus iconique, tout simplement aussi, voilà. Et tu fais bien de dire la photo, Fred, parce que c'est ça aussi. En 98, on n'est pas encore non plus à fond sur les images télé, on est aussi sur la photo. Et je voudrais rendre hommage à Andrew Bernstein, Scott Cunningham et Fernando Medina, parce que c'est la petite histoire derrière ce shoot iconique de Michael Jordan. Pourquoi il sera immortalisé de cette manière? Parce que ils ont voulu tester pour l'une des premières fois la synchronisation sur
trois photographes alignés, un qui est sous le panier adverse, donc il a le dos de Michael Jordan au moment du tir, un en tribune haute et un autre sur le côté un petit peu plus latéral. Le problème, c'est qu'il y en a un des trois qui doit appuyer sur, sur la gâchette pour prendre la photo la plus historique de l'histoire de la NBA. Et le problème, c'est que Andrew Bernstein, c'est lui qui la prend. Et le problème, c'est qu'il est sur le panier opposé. Donc, qu'est-ce qu'il voit au moment où Michael Jordan tente son tir ?
Il voit ses fesses.
Il voit, pire que ça, il voit des pieds adverses, il voit des défenseurs de Utah qui reviennent sur Jordan derrière. Donc, il ne voit rien. Mais il prend la décision d'appuyer parce qu'il sait que ça va être à ce moment-là. Et heureusement, grâce au système de synchronisation, en fait, les deux autres photographes avec les appareils étaient placés. Donc, celui qui déclenche, déclenche pour les trois.
Ok.
Et voilà ce qui arrive. On a la photo la plus
marquante
de l'histoire de la NBA, de l'histoire des playoffs de la NBA. Parce que souvenez-vous de cette photo, je ne sais pas si vous la regardez chez vous ou sur Google, on voit dans le détail la tronche de tous les fans de Utah au moment où Michael Jordan s'élève. Et je pense que c'est ça aussi le sport, c'est qu'on voit toute la détresse et toute la joie d'un côté du côté des Bulls parce qu'on sait que Michael Jordan va le mettre.
Et Brian Russell remercie les photographes d'ailleurs qui défendent.
Il n'y a toujours pas rejoué Jordan en 1 contre 1 d'ailleurs.
Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il défend mal ou est-ce que c'est indéfendable?
Il y a cette légende qui dit qu'il y a faute, que Michael Jordan
le pousse la fesse. Il le pousse un peu, c'est dans l'action, mais il le pousse un peu.
Quand il revient, quand il met les rétrofrappes pour revenir, il y a cette petite main gauche qui accompagne le postérieur.
C'est-à-dire que c'est pas juste, bon, il est tellement à l'ouest.
Oui, mais après, Brian Russell est sur un slide défensif, donc il a de la vitesse, et quand il est accompagné par la main gauche, il finit
par... Puis la NBA devient vraiment mondiale.
Qui pense qu'il y a faute ? Tu penses qu'il y a faute, toi ?
Jamais de la vie.
Ah bon, je préfère. C'est à toi, Stephen.
Moi, je vais finale 2010, Boston Lakers, Kobe Bryant, Pau Gasol d'un côté, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen de l'autre. Les Lakers vont s'imposer 4-3, Kobe sera élu MVP des finales, mais le vrai héros de cette finale, Alex, tu le sais, c'est Meta World Peace, mieux connu sous le nom de Ron Artest. Personnage atypique, attachant, si on ne s'arrête pas uniquement sur la bagarre du palace d'Auburn Hill. Ron Artest, il a sauvé Kobe Bryant d'un nouvel échec face aux Celtics. Il joue 46 minutes lors du match 7. Il va inscrire 20 points, 5 rebonds, 5 interceptions, mais surtout un tir à 3 points qui délivre les Lakers à une minute de la fin, alors que Kobe n'arrive pas à mettre le moindre tir. Il finira à 6 sur 24, le Black Mamba. Un Kobe Bryant, on sait, glouton, peu enclin à faire des passes, et Ron Artest va faire une conf de presse fabuleuse pour raconter justement cette passe de Kobe et ce tir à 3 points qu'il prend.
And he trusted us, and he made us feel so good. He made us feel so good, and he passed me the ball. He never passed me the ball. And he passed me the ball. Kobe passed me the ball, and I shot a three. And Phil didn't want me to shoot the three. I heard him, because he's the Zen master, so he can speak to you without, you know? He can speak to you, and he don't need a microphone. He just, you can hear him in your head, Ron, don't shoot, don't shoot. I said, whatever. Boom, three, woo, yes.
Il était sonné, Ron Artest, quand même.
La conférence de presse, elle dure 9 minutes 30. Il faut la voir, elle est mythique. Il y a toute sa famille derrière, ses enfants, sa femme, son frère, son beau-frère. Et alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il dit que Phil Jackson, son surnom, c'est le Zen Master. Il dit le Zen Master, même s'il ne vous parle pas, il y a ce petit son dans l'oreille qui vous dit ne prends pas le tir. Il dit bon, moi, je tire quand même. Ron Artest, fantastique.
Ron Artest qui un jour a remercié son psychiatre après une victoire des Lakers. On a fait le tour.
Bravo,
Mathieu, vous m'avez fait rêver avec vos meilleurs moments de play-off, même si vous m'avez complètement pété le quiz.
Salut,
quel magazine, quel papier.
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi?
Bon, Pierrot, j'ai l'impression qu'il y avait une question.
La première question était match 6 des finales 80. Qui joue pivot à la place de Karim Abdul-Jabbar? Ok. La deuxième question était qui défend sur Jordan?
Mais non, tu mens.
Celle-là, je l'ai remplacée pour autre chose à la dernière minute, heureusement.
Donnez son nom complet.
J'en improvisé une, donc pour remplacer. Mais j'hésite à donner
Attention, quand t'improvises des questions, parfois t'as pas la réponse, Pierrot.
Exactement. C'est bien pour ça que là j'ai une petite goutte de transpiration.
Pensez pour Stojakovic.
Juste, si Fred vous raconte pas l'histoire, vous l'avez l'anecdote.
Oui.
Donc d'accord.
Oui.
Donc je donne pas un point d'avance à Fred.
Non.
Ok.
Non.
Alors on va faire donc les playoffs 95, d'accord.
Houston Rockets.
Hakim.
Les playoffs 95, match 1 entre New York et Indiana. New York mène de 6 points. Que se passe-t-il ensuite?
Reggie Miller met 8 points en 36 secondes.
Exactement. Bon, donc le premier point va à Steve. Je me suis pas compliqué la vie pour...
Ça, c'est la question qui a été inventée?
C'est la question inventée. Oh. Ah, donc un point pour Steve.
Mais comment t'as inventé cette question?
0,5, je dis 36 secondes.
T'as dit 36 secondes? Non, c'est en 16 secondes.
En 16 en plus.
Ah bah j'avais le 6.
0,25.
Avec malgré tout un shoot raté quand même, hein, dans ces 8 points.
Oui.
Là, comment tu fais pour flinguer un match comme ça là? C'est dans la tronche, là, non? T'es né New York, oui.
Bah,
New York.
Écoute, tu perds un ballon. Je vous rappelle le Spike Lee qui était comme un dingue, le trash talk avec Reggie Miller. Ouais, ouais. Incroyable, Reggie Miller. Interception sur remise en jeu, il recule, tire à 3 points. Reggie Miller.
Il n'y a pas faute non plus quand il intercepte la passe.
Non, faute.
C'est bon. Allez, donc un premier point pour Stephen, un premier point qui aurait dû aller à Fred. Donc, il va falloir que tu changes le cours de ce match, Fred, avec. À une question sur les Bulls de 91 maintenant. En 91, lors de ce titre, ils ne perdent que deux matchs en play-off. Ah ouais. Un contre les Lakers en finale. Quelle est l'autre franchise?
Indiana, Portland?
Non, non plus.
Charlotte?
Et non, non plus.
Aucune idée.
Les Warriors?
Ah.
C'est une équipe qui est flinguée en plus.
C'est pas possible, Seattle. Les Warriors, puisqu'ils en perdent un en finale contre
Atlanta.
Les Lakers.
Seattle, Atlanta.
Ah, mais tu parles de saison régulière ou en play-off?
Non, en play-off, ils ne perdent que deux matchs.
Je croyais que c'était la saison.
Les Jazz?
Non, 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 c'est marrant quand même. Ah, vous l'avez
Seattle.
Pas.
Ouais,
c'est marrant. Alors, c'est pas Seattle. Donc, premier tour, ils mettent 3-0 aux Knicks. Finale de conférence. Finale de conférence, ils mettent 4-0 à Détroit. D'accord? Et ben, c'est dans le tour d'avant qu'ils perdent contre Charles Barkley.
Ah, c'est ça?
Philadelphie, absolument. Quand même, série incroyable, quand même. Ils ont défoncé tout le monde.
J'avais un an. Hein.
Ils ont détruit tout le monde.
Tu dis quoi, Alex?
J'avais un an.
Voilà, c'est
ah oui, tu t'en souviens pas parce que j'avais un an. D'accord, bah, je vais te citer Moscato, donc Napoléon, tu l'as pas connu, tu le connais pas, c'est ça?
C'est qui?
Donc ça fait 2-0 pour Stephen, vous allez peut-être pouvoir.
Je sais pas si je le mérite, ce point.
Vous en sortir. Ouais, bah, c'était plus difficile que je pensais. Je pensais que vous l'auriez assez rapidement.
J'avais appris que Barclay avait changé les questions avec les Sixers.
Donc, alors là, ça va être des enchères. Si vous me donnez les 10 noms, vous avez 2 points et c'est faisable. C'est faisable. C'est pas évident, mais c'est faisable.
Deux 5 majeurs de.
C'est pas les 5 majeurs.
Oh mon dieu.
J'ai vous demandé.
Les 10 mecs qui étaient dans les tribunes West devant, juste derrière Michael Jordan sur son dernier match.
Le moment qui, personnellement, m'a le plus marqué, ce sont ces finales 2013. Ce 3 points de Ray Allen, donc, qui égalise
Spurs-Miami.
Avec Miami, alors que les Spurs ont quasiment gagné la finale, d'accord. Ce shoot incroyable en reculant avec quasiment les 5 gars des Spurs sur lui.
D'Anthony.
Êtes-vous capable de me donner les 10 joueurs qui sont sur le parquet, hein, pas les 5 majeurs, les 10 joueurs sur le parquet à ce moment-là? Pourquoi tu vas dans ton ordi, toi?
Je note les noms que j'ai en tête.
regarde.
Ok. Alors, Alex, t'es capable de m'en donner combien?
5.
5. Fred?
Pas mieux.
Beaucoup, mais bien sûr que
mais
tu fais mieux. Évidemment que tu fais mieux. Stephen. Stephen, il n'est pas obligé d'avoir les 10. Hein. Un point lui suffit pour gagner
7.
Le quiz. 7.
Ouais.
Personne tente les 10. Mais franchement, et franchement.
Bah, non.
Et franchement, 8, les doigts dans le nez. Je vous le dis, vous faites 8, les doigts dans le nez, les gars.
J'ai 8. Je tente 8.
Même normalement 9, les doigts dans le nez. Normalement, si vous réfléchissez 2 secondes, vous en avez 9, les doigts dans le nez.
Je tente 9.
Ah. Arrête de le chauffer.
Bah, vas-y, il n'y a que Stephen qui a du panache. Vas-y, Stephen.
Je tente 9 pour les Spurs. Je sais qu'il y a une grosse erreur de Popovic, que Duncan est sur le banc. Il est
voilà,
pas
donc t'as les 5 Spurs déjà.
Non, j'en ai 4. Tony Parker, Boris Dio, Kawhi Leonard, Manu Ginobili.
Ouais.
Et le 5e, je fais une petite pause. Je fais une petite pause.
Petite pause, vas-y.
Pour le hit.
Ah, c'est trop tard, Alex. Hein. Pas de regret à avoir. Hein.
Pour le hit, j'ai Ray Allen qui met le tir à 3 points.
Évidemment.
J'ai Chris Bosh qui prend le rebond.
Évidemment.
Qui ressort pour Ray Allen. J'ai LeBron James.
Évidemment.
Et là, les deux autres, c'est suspense. Je vais tenter, j'hésite entre Mike Miller et Mario Chalmers. Je vais quand même tenter Shane Batty. Il est sur le terrain ou pas?
Non. Non, mais franchement, avec les indices que je vous ai donnés, il y en a un d'évident.
Ray Allen, je l'ai dit.
Ouais, Ray Allen, tu l'as dit. Bah, heureusement que tu l'as dit quand même. Bon, vous l'avez pas, vous les avez
non,
pas.
Bah,
alors vas-y, Mario Chalmers, je te l'accorde. Donc t'en es à TA.
Je suis à 8.
T'es à 8. Bah, il y a Dwayne Wade, tout simplement,
ah,
que tu m'as pas dit.
C'est vraiment un truc.
T'as pas dit Dwayne?
Non.
Et je croyais que tu l'avais dit.
Moi aussi, je croyais que tu l'avais dit.
Et le Spurs, vous pouvez le trouver, hein, franchement.
C'est
vous,
un Brésilien.
Thiago Splitter.
Patty Mills.
Non. Moi, j'aurais dit Thiago Splitter aussi.
Oui, tu l'as.
Non,
je l'ai pas. C'est Danny Green.
Danny Green.
Ah.
Les 10, vous pouviez les avoir. Mario Chalmers, franchement, très dur. Bravo, Stephen, mais vous pouviez avoir les 10, non?
C'était jouable.
C'était jouable.
C'était largement jouable.
Mais je donne le point, j'accorde le point à Stephen Brown.
Oh oui. Ah bah oui,
d'abord parce que totalement. C'était à vous d'y aller, vous n'y êtes pas allé, là, franchement.
Bah, je suis allé les 3 dernières fois, Fred.
Ouais, fois, j'ai gagné.
Pour gagner le quiz, fallait y aller.
Vous aviez
2 points sur cette question. Bravo, Stephen. Bravo, messieurs. C'était un excellent podcast.
Et let's go,
bravo
Mavs.
À vous,
et let's go, Mavs.
Que vous pouvez télécharger en version longue sur rmc.fr.
RMC Basket Time.